France Musique. C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Oliveira Guyon, Musique Matin.
Vendredi 20 août, bienvenue à vous et belle matinée avec France Musique. Aujourd'hui jusqu'à 9h dans Musique Matin, Albéniz, Sibelius ou encore Cavalli pour vous accompagner en cette fin de semaine. Avec nous à 8h30, la musicienne théorbiste, harpiste, luthiste et directrice musicale de son ensemble L'Arpeggiata, Christina Pluart dans nos studios. Dans 10 minutes, notre revue de presse culturelle et le reportage de Louis-Valentin Lopez sur l'exposition Renaud à la Philharmonie de Paris actuellement. À 7h50, comme chaque jour, le jeu de l'été tentait ce matin de gagner le disque Rituel par l'Orchestre National de Jazz, un programme collectif entre voix et création originale. À 8h, le journal présenté par Lisa Penalver et à 8h10, notre Tour de France des festivals qui continue sa route, direction ce matin la Dordogne pour le festival Symphonia en Périgord. Et à l'honneur aujourd'hui pour notre place à la création, à 8h25, la compositrice Lucie Prodhomme. Je vous souhaite la bienvenue, un café et puis oui, on pense à demain. Demain, c'est samedi. David Russell à la guitare dans cet arrangement pour guitare de la Symphonia numéro 2 en ut mineur BWV 788 de Jean-Sébastien Bach. La semaine prochaine, si vous êtes encore en vacances dans la Loire ou si vous y vivez à l'année et donc à l'approche de la rentrée scolaire, le festival BWD12 n'attend que vous. En partenariat avec notre antenne, ce sont 3 jours de concerts, les 27, 28 et 29 août, festival de musique de chambre, qui célèbre sa 16e édition. 7 concerts autour de Piazzolla, Saint-Saëns et Fauré, avec entre autres le violoncelliste Samuel Etienne, le violoniste Nicolas Dautricourt, l'altiste Cédric Robin ou encore la violoniste Cécile Agathor. Un festival durant lequel l'ensemble des musiciens est en résidence pour une programmation faite de manière à ce que tous les musiciens jouent tous les soirs, un peu comme une troupe de théâtre. C'est donc à Saint-Victor-sur-Loire et le festival BWD 12 commence vendredi prochain. En attendant, voici l'un des musiciens fidèles du festival, Nicolas Dautricourt, dans le menuet pour violon et piano, l'une des pièces opus 81 de Jean Sibelius. Le Menuet, l'une des cinq pièces opus 81 de Jean Sibelius, compositeur, mais également très grand violoniste. Il n'est pourtant jamais rentré dans l'orchestre philharmonique de Vienne. Il avait tenté plusieurs fois, mais il a écrit beaucoup pour son instrument de prédilection. On connaît entre autres évidemment son concerto pour violon, fameux opus 47, et puis donc ses petites pièces pour violon et piano, l'opus 81, ici interprété à l'instant par Juho Pojonen au piano et Nicolas Dautricourt au violon.
C'est l'été sur France Musique.
Et comme chaque jour, l'été, gardons nos habitudes, vos rendez-vous qui rythment votre petit matin avec France Musique. 7h39, l'heure de notre revue de presse et du reportage des journalistes de France Musique. Télérama consacre un article à Deborah Waldman, la chef qui a arraché de l'oubli la symphonie Grande Guerre de la compositrice Charlotte Sohi. Des kibbutz à Buenos Aires, son enfance fut rocambolesque. Arrivée en France, la chef d'orchestre Deborah Waldman découvre presque par hasard l'œuvre poignante de Charlotte Sohi. Une musique qu'elle réhabilite aujourd'hui sur scène et à travers un livre, La Symphonie Oubliée, qu'elle publie en collaboration avec la journaliste Pauline Sommelet. Jean-Baptiste Urbain d'ailleurs les avait reçus en mai dernier dans Musique Matin. C'est en 2013 au Pradet que Deborah Waldman fait la connaissance de François-Henri Labbey, musicologue et directeur de conservatoire, qui lui parle de sa grand-mère, Charlotte Sohi. Selon lui, une compositrice qui mériterait d'être réhabilitée. Alors curieuse, la chef accepte de se pencher sur les partitions de cette inconnue, précieusement conservée par son petit-fils. Étonnement et incrédulité, comment, après avoir écrit une symphonie aussi puissante que celle baptisée Grande Guerre, Charlotte Sohi a-t-elle pu sombrer dans l'oubli? Pour Deborah Waldman, une nouvelle quête commence. Le livre La Symphonie oubliée en est le résultat, entre autres, publié chez Robert Laffont. C'est un long article croisé entre livre, chef et compositrice à lire sur télérama.fr. Et également dans La Croix ce matin, un papier d'Emmanuel Giuliani, envoyé spécial au Festival de Salzbourg, qui revient sur le choc Intoleranza, créé à Venise en 1961. Ce manifeste musical du compositeur Luigi Nono frappe toujours aussi fort. En majesté, l'orchestre philharmonique de Vienne et une équipe de chanteurs, comédiens, danseurs en état de transe. Un spectacle que décrit Emmanuel Giuliani qui impressionne, comme elle dit, que l'on ne verrait pas tous les jours, vous choque même plus qu'il ne vous émeut, mais qu'on se félicite grandement d'avoir pu découvrir. Un spectacle qui vous laisse épuisé, mais sans doute bien moins que ses interprètes. Intoleranza 1960 de Luigi Nono au Festival de Salzbourg, c'est jusqu'au 29 août. Et le journal Le Monde cette nuit nous apprend le décès de deux figures du monde de l'art. Le peintre et photographe américain Chuck Close, figure de l'hyper-réalisme, mort hier à l'âge de 81 ans. Connu pour ses portraits ou autoportraits géants, des œuvres gigantesques pour certains en mosaïque, pour d'autres tellement détaillées qu'ils ressemblent à l'œil nu à des photographies. Parmi ses sujets, il avait représenté le président américain Bill Clinton, le compositeur Philip Glass, la légende du rock Lou Reed ou encore l'artiste Cindy Sherman. Paralysé par une attaque en 1988, Chuck Close ne se déplaçait plus qu'en fauteuil roulant mais continuait à peindre. Exposé dans les plus grands musées comme le MoMA ou le Guggenheim à New York, ses œuvres ont aussi orné le métro new-yorkais. Et puis l'artiste et designer Guy de Rougemont est mort. Cet ancien 68art, un vrai touche-à-tout, mais c'est dans le design et l'art monumental qu'il s'est particulièrement distingué. Il est décédé hier à Montpellier à l'âge de 86 ans. Dès sa sortie, il participe à plusieurs expositions collectives dès sa sortie de ses études. Comme la Biennale de Paris en 1966, Guy de Rougemont avait aussi commencé à montrer ses travaux bien avant à la Galerie Charpentier à Paris également en 1955 et à la Galerie Darcy de New York en 1962. Et nous restons ce matin dans le monde des expositions dans Musique Matin avec une autre, mais à Paris, qui a dû fermer à cause de la pandémie, mais qu'à cela ne tienne, elle est prolongée. La rétrospective consacrée au chanteur Renaud au musée de la musique de la Philharmonie de Paris joue les prolongations jusqu'en novembre. Une putain d'expo, c'est son nom, entièrement consacré à la vie tumultueuse, engagée et poétique de Mister Renard. Louis-Valentin Lopez l'a visité pour nous.
Le parcours n'est ni biographique ni chronologique, c'est une sorte de déambulation. On a l'impression d'entrer chez Renaud, de le rencontrer. C'était l'objectif recherché par la commissaire Johanna Coppens qui a écrit une thèse sur le chanteur. Cette exposition est le fruit d'une documentation très minutieuse.
On a travaillé avec David Séchant, qui est le frère jumeau de Renaud, Gérard Le Monaco, qui est un grand scénographe et qui est aussi celui qui a construit tous les décors de scène de Renaud. Renaud a eu la générosité de nous laisser dévalisé son appartement. Il nous a cédé tous ses manuscrits, ses dessins, puisque c'est aussi un grand dessinateur, des objets tels que ses instruments de musique, la lampe de mineur de son grand-père Oscar du Nord. Donc il y a une grande richesse au niveau de ce qu'on peut trouver dans l'exposition.
Les premiers dessins de Renaud, son premier roman policier écrit à 9 ans. L'exposition donne à voir mais aussi à entendre grâce à des archives audiovisuelles comme cet entretien avec Bernard Pivot. Et plus loin, on découvre un Renaud acteur sur le tournage de Germinal, très engagé, aussi révolté, humaniste. Les visiteurs sont nombreux. Laurent et Julie viennent
d'Annecy,
conquis par l'exposition.
Tous les textes qu'il a écrits, les lettres de son père, les archives personnelles,
Je connais Mistral gagnant et trois autres chansons, je pense. On s'imagine pas tout ça, c'est très dense.
Noël, de son côté, s'attarde avec beaucoup de nostalgie devant les archives.
Ça fait rejaillir beaucoup de souvenirs. J'ai vu Renaud en concert, je l'ai vu au meeting de Mitterrand, je lisais Charlie Hebdo, donc beaucoup d'émotions. C'est un vrai plaisir.
Il est intemporel, Renaud.
Complètement. C'est un poète et un militant, un artiste.
La chance de découvrir une rétrospective malmenée par la crise sanitaire après un début en fanfare en octobre 2020. Marie-Pauline Martin, directrice du Musée de la Musique.
On a eu 15 jours de rayonnement maximal pour cette exposition qui a fermé aussitôt, juste après 15 jours d'exploitation, pour rester fermée pendant 6 mois, donc éloignée du public. C'était rendre hommage au patrimoine de Renaud et au travail fait par les commissaires en prolongeant l'exposition pour toucher le public le plus large possible.
Renaud à la Philharmonie, c'était une évidence pour vous ?
Pas vraiment, c'était une gageure. Je crois qu'on s'est tous rejoints un moment pour, autour d'une figure vivante qui nous intéressait, questionner quelle est la part d'héritage qu'aujourd'hui une institution comme la Philharmonie doit consacrer, quel pas on doit faire aussi vers ce patrimoine qui touche une France extrêmement large et un territoire, quel pas on doit faire pour croiser ces différentes sensibilités.
À la croisée de l'art, du politique et de l'intime, l'exposition, riche, intelligente et pensée, se parcourt sans modération.
L'exposition consacrée à Renaud est prolongée précisément jusqu'au 7 novembre, à voir donc au Musée de la Musique de la Philharmonie de Paris. Et l'occasion pour nous à 7h46 d'écouter, c'est assez rare, Renaud.
Des rues de Bogota, au trottoir de Miami. Ça fait trop loin pour moi, alors je reste ici. Pourquoi je quitterai mon pays si joli pour aller galérer aux États-Unis? Du travail j'en ai, le pavot, la coca. Pas Dieu qui les fait pousser, c'est mon papa et moi. Adios Zapata, que viva marijuana. Pour eux la mort, pour nous la samba. Fini la guérilla, on faisait pas le poids. La lutte armée, ça va, quand t'as pas d'autre choix. Avec les gringos, on a trouvé plus malin. On fait du négoce, et la main dans la main. Les banques, la CIA, sont nos meilleurs clients. Che Guevara,
grande comandante.
Que viva marijuana. Pour eux la mort, pour nous indien et piller mon pays. Nous on se venge enfin sans prendre le maquis. On fait agriculteur et l'oncle Sam achète. Et qui c'est le dealer qui pourrit la planète? C'est mon papa et moi, ou bien c'est le youpi qui blanchit caramba.
Adios Zapatas, chanson de Renaud, extraite de son disque à la Belle de Mai de 1994. Et maintenant, nous allons vous faire gagner un disque, mais ça n'est pas celui-là. Vous avez mis votre réveil un peu avant 8h pour pouvoir tenter une nouvelle fois de gagner des disques. Eh bien, vous avez très très bien fait. Le jeu, c'est maintenant. Et non pas Renaud, un disque à gagner ce matin. C'est le disque très original qui ressemble à aucun autre. Rituel de l'Orchestre National de Jazz. Un programme collectif coécrit par Frédéric Morin, Elinoa, Sylvaine Hélary, Grégoire Letouvet et Leïla Martial. Création pour orchestre et voix entre illusions sonores, musique spectrale, où l'auditeur suit l'orchestre dans un parcours construit autour de la notion de rituel quotidien. Un disque France Musique que vous pouvez recevoir chez vous. En répondant correctement à la question que je vais vous poser, vous nous écrivez via l'onglet « Contactez-nous » sur notre page Musique Matin, francemusique.fr. La réponse oui, mais la bonne, et vos coordonnées complètes, sinon le courriel ne sera pas validé par Margot Muller. Attention, elle est très sévère. La question donc, cette année, l'Orchestre National de Jazz fête un anniversaire. Depuis combien de temps existe cette formation? 10 ans, 35 ans ou 50 ans? L'Orchestre National de Jazz fête ses 10 ans, ses 35 ans ou ses 50 ans cette année? La réponse, juste avant 9h. Et pour vous donner encore plus envie de jouer, écoutons un extrait de ce disque rituel, c'est Haillons. Haillon par l'Orchestre National de Jazz, un extrait du disque que nous vous offrons ce matin, Rituel. On a entendu à l'Orchestre National de Jazz et les voix d'Elinoa, Laïla Martial, Linda Ola ou encore Romain Daïez. Vous pouvez continuer à jouer pour le gagner, ce disque. Disque Rituel sorti tout récemment sur le label ONG Records. Et quelque chose de tout récent aussi, c'est le festival Ravel, un nouveau grand rendez-vous musical ancré sur le territoire de Saint-Jean-de-Luz et Cibourg. Michel D'Alberto, Katia et Marielle Labec, Sophie Coche, le quatuor Diotima ou encore Sol Gabetta au programme. Après 3 années de coproduction, musique en Côte Basque et Académie Ravel ont fusionné en 2020 pour donner naissance à une seule et unique entité, ce festival Ravel. Alors malheureusement, la première édition n'a pas eu lieu l'été dernier. Enfin, nous y voilà. Il ouvrira ses portes ce dimanche 22 août et se poursuit jusqu'au 10 septembre. Deux grands pianistes à la co-direction artistique, Jean-François Esser et Bertrand Chamaillou. Et il chantera, lui, dans ce festival Ravel le 1er septembre en l'église de Saint-Pé-sur-Nivelle, accompagné par Michel D'Alberto, Fauré, la bonne chanson, Schumann, les Dichterliebe, et Ravel, Gaspard de la nuit. Il s'agit du baryton Stéphane Degout.
Ciel brumeux aux horizons navrant. Au rapide couchant aux aurores pâlies, je regarde esprits emportés, comme s'il se pouvait que notre âge renaisse, parcourent en rêvant les coteaux enchantés, où jadis sourit ma jeunesse. Soleil du souvenir vainqueur, refleurir en bouquet les roses des lignes, puis monter à mes yeux des larmes quand mon cœur
enregistré au Théâtre de l'Athénée à Paris en décembre 2017, à l'instant, le pianiste Simon Lepper qui accompagne le baryton Stéphane Degout dans cette mélodie automne, l'une des mélodies de l'opus 18 de Gabriel Fauré, sur un texte d'Armand Sylvestre.
Lundi sur France Musique, le concert de 20h traverse les frontières et vous emmène au Festival de Lucerne. Mozart et Schubert, deux compositeurs publicités par Ricardo Chailly à la tête de l'orchestre du festival. Mozart tout d'abord, avec l'ouverture de Don Giovanni et la symphonie numéro 40, la fameuse en sol mineur. puis la symphonie numéro 6 de Schubert. Chailly à Lucerne, dans Mozart et Schubert, c'est lundi à 20h sur France Musique et francemusique.fr.
Se vacciner contre la Covid-19, c'est se protéger, protéger les plus fragiles et pouvoir bientôt tous se retrouver. Qui peut se faire vacciner aujourd'hui? Toutes les personnes de 12 ans et plus. Alors n'attendez plus. Faites-vous vacciner. Vous pouvez vous renseigner et prendre rendez-vous sur santé.fr ou auprès d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé et de l'Assurance Maladie.
Vendredi 20 août, le journal de France Musique dans quelques instants. Musique Matin, eh bien nous sommes là jusqu'à 9h et dans 30 minutes, elle sera avec nous en studio, la musicienne Christina Pluart. Eh bien voilà, il est tout juste 8h. L'heure du journal, journal présenté par Lisa Penalver. Bonjour Lisa.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous. En Afghanistan, depuis dimanche et la prise de pouvoir des talibans, plus de 18 000 personnes ont été évacuées. Et les Afghans se pressent encore aujourd'hui, nombreux, à l'aéroport de Kaboul pour fuir leur pays. Hier soir, près de 200 personnes sont arrivées à Paris dans un troisième avion affrété par la France. Parmi elles se trouvait une majorité d'Afghans que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, précise être menacés dans leur pays à cause de leur engagement. Engagement qui mérite, dit-il, que la France leur offre l'asile. En Haïti, 5 jours après le séisme dévastateur qui a tué près de 2200 personnes, l'aide humanitaire se coordonne lentement. Les autorités veulent éviter les erreurs de 2010 où des camps de tentes et autres abris de fortune s'étaient installés dans la durée pour aider les habitants à reconstruire leur logement. Elles ont donc fait envoyer par la route depuis Port-au-Prince des planches, des clous et des bâches en plus de la nourriture, de l'eau potable et des médicaments. L'aide internationale est aussi en cours d'acheminement et les recherches se poursuivent. En Australie, face à la propagation du variant Delta, le confinement de Sydney, instauré il y a 2 mois, est prolongé jusqu'à fin septembre. Un couvre-feu est aussi mis en place dans les quartiers les plus touchés, de 21h à 5h du matin. La Nouvelle-Zélande voisine, jusqu'ici modèle dans la lutte contre le Covid, prolonge aussi son confinement strict, initialement établi mercredi pour 3 jours. En France, l'outre-mer est toujours en proie à une flambée de cas Covid. Pour venir en aide aux Antilles, un avion décolle cet après-midi de l'aéroport de Paris-Orly, direction la Guadeloupe et la Martinique. À son bord, plus de 300 soignants volontaires et du matériel médical. Ils vont prêter main forte à leurs collègues submergés par la 4e vague. Sur la Côte d'Azur, l'incendie débuté il y a 5 jours n'est toujours pas éteint. Avec des changements de vent fréquents, les pompiers restent vigilants et craignent de nouveaux développements ces prochains jours. L'incendie a déjà causé la mort de 2 personnes et en a blessé 26 autres. Il est le plus important de l'année en France avec 7100 hectares de forêts brûlées. Le futur plus gros paquebot du monde, fabriqué à Saint-Nazaire, réalise ce vendredi sa première sortie en mer. En construction sur les chantiers de l'Atlantique depuis octobre 2019, le Wonder of the Sea part pour ses 4 premiers jours de manœuvre. Le navire qui pourra à terme transporter plus de 6000 passagers doit être livré début 2022 à son port d'attache, le port de Shanghai. C'est une information de nos confrères de France Bleu Océan. La météo pour finir, le pays reste coupé en deux ce matin avec un grand soleil et de la chaleur dans la moitié sud et un temps toujours nuageux dans la moitié nord. Dans le nord, ça devrait toutefois s'améliorer cet après-midi avec des éclaircies plus nombreuses, tandis que dans le sud, des orages sont à prévoir en Corse et des averses sont possibles sur les Pyrénées et les Alpes du Sud. Côté température, on attend 22 degrés à Rennes, 23 à Reims, 26 à Bordeaux et 28 à Gap. Vous écoutez France Musique, il est 8h03, l'heure de retrouver Gabriel Olivier Aguillon pour Musique Matin.
Merci beaucoup Lisa Penalver. Prochain journal sur France Musique à midi avec vous.
Tout à fait.
Et des éléments que l'on aura de partout dans le monde. Et tout de suite, nous, eh bien, nous allons continuer notre Musique Matin. On se retrouve demain à 8h.
C'est l'été sur France Musique. Le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon, Musique Matin.
Musique Matin, effectivement, nous sommes ensemble jusqu'à 9h, 1h pour évoquer, comme chaque matin, l'actualité musicale, les festivals de l'été, les nouveaux disques, les rendez-vous à ne pas manquer et les musiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui d'ailleurs, à 8h25, notre place à la création sera consacrée à la compositrice Lucie Prodhomme. Quant à notre Tour de France des festivals, nous irons dans la région de Périgueux, en Dordogne, pour le festival Symphonia en Périgord. Et puis à 8h30, notre invitée, la grande musicienne Christina Pluart, luthiste, théorbiste, directrice directrice musicale de son ensemble L'Arpeggiata. Un nouveau disque, des concerts très bientôt, au festival de Rocamadour, à celui de Sablé-sur-Sarthe ou encore à Paris. Nous en parlerons avec elle d'ici 25 minutes. Très bonne matinée à l'écoute de France Musique. Vous savez maintenant ce qu'il se passe dans le monde. Vous avez notre programme musical, nos invités. Restez avec nous. Bienvenue à toutes et à tous. El Puerto d'Iberia d'Isaac Albéniz par celui qui a enregistré une anthologie du piano espagnol de toute beauté au début des années 90, Jean-François Esser au piano. Un pianiste qui sera justement en récital Albéniz tout à l'heure en l'église de la côte Saint-André au festival Berlioz. C'est à 17h, troisième récital consacré d'ailleurs au répertoire espagnol, plus largement autour des compositeurs Federico Mompou, Manuel de Falla et Enrique Granados, en plus d'Isaac Albéniz, évidemment. Un tour tout de suite à 8h09 dans le Périgord pour notre tour de France des festivals. C'est tout de suite. Et nous sommes heureux avec notre petit vélo d'aller retrouver le soleil auprès de vous, David Théodorides, directeur programmateur du Festival Symphonia en Périgord. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, c'est la 30e édition cette année. Votre festival commence le 21, c'est-à-dire demain, et continue jusqu'au 28 août. 21 concerts de musique et on commence donc demain à 21h avec un carnaval baroque par le Poème harmonique dirigé par Vincent Dumestre. C'est une concert mise en scène, il y aura aussi donc des jongleurs et des acrobates.
Oui, ça me paraît très intéressant justement aujourd'hui de montrer au travers d'un festival toute la diversité de ce que propose le mouvement baroque, que ce soit à la fois dans des concerts très habituels où le public vient et entend une œuvre avec un artiste extraordinaire, ou alors aussi toutes ces formes transdisciplinaires de spectacle musical qui permet de montrer que ces répertoires sont d'une diversité extraordinaire et finalement d'une facilité d'approche pour les publics assez remarquable. Et donc là, on va avoir une explosion de jongleurs, de comédia dell'arte et de musique populaire napolitaine sur ce thème du carnaval, finalement, qui va très bien pour une 30e édition et pour ouvrir brillamment cet anniversaire.
Et alors parlons des lieux, beaucoup de lieux différents dans le Périgord. Vous pouvez nous donner quelques noms, quelques endroits, nous décrire pourquoi pas ces lieux qui accueillent vos concerts cet été ?
Oui, on a la chance en Dordogne d'avoir un patrimoine extraordinaire et finalement cet itinéraire musical et patrimonial nous plaît bien, permet de mettre en relief à la fois les pierres de la Dordogne, ces deux monuments, et puis la musique. Et donc nous allons aller, que ce soit dans les salons des 19e de la préfecture, que dans un château du côté d'Anton et Trigona, dans une très très belle abbaye privée à Sorges et Ligueux. Voilà, c'est l'idée, c'est effectivement chaque jour d'offrir une émotion différente dans un paysage différent. En plus, on a la chance, il va faire un temps splendide, donc finalement, ça va bien avec la route des festivals. On est comme ça en balade et on profite à la fois de la beauté du cadre et puis de la beauté des musiciens, de la musique qui va être interprétée.
Et donc une programmation baroque, comme le veut le Festival Symphonia en Périgord, édition totalement annulée l'an dernier. Est-ce qu'il y a un thème cet été, un fil rouge qui réunit tous les concerts du festival, peut-être même les mêmes d'ailleurs que ceux prévus l'an dernier ?
Oui, tout à fait. On voulait impérativement fêter cette 30e édition avec les musiciens qui étaient invités en 2011 et qui malheureusement n'ont pas pu venir pour les circonstances que l'on connaît. Et donc on a choisi avec tous ces artistes, 4 générations du concert spirituel jusqu'à Justin Taylor. Donc 4 générations de musiciens qui viennent montrer justement ce fil qui se déroule depuis tant d'années. Finalement, c'est une grande fête familiale et s'il n'y avait qu'un thème à retenir, c'est le plaisir et la fidélité qui nous réunit depuis trois décennies ensemble pour célébrer ces répertoires dans toute leur diversité, de la musique profane, sacrée, des grandes formes, des petites formes. Voilà, en fait, l'idée, c'est effectivement d'être dans cette immersion, un voyage dans le temps où de la rue au palais, de l'église au café, eh bien, on va comme ça, de ci, de là, goûter à toutes les saveurs de la musique baroque.
Et le public est présent, vous sentez qu'ils ont hâte de retrouver le festival Symphonia en Périgord ?
Oui, il y a une hâte et je vous cache pas que depuis quelques jours, ça s'est accéléré, on sent une véritable effervescence, une attente. On avait quelques craintes avec la mise en place du pass sanitaire, évidemment.
Bien sûr.
Et en même temps, je crois que c'est la seule condition, c'est la condition indispensable aujourd'hui pour qu'on puisse, à la fois en toute sécurité et en même temps, avec beaucoup de plaisir, revivre ces moments d'émotion collective qui sont les concerts. On n'est pas dans son salon à écouter un CD, on est avec notre voisin, avec les artistes qui sont là en chair et en os. On vit quelque chose qui est irrépétible, cette émotion unique qui fait qu'on repart du concert avec des souvenirs et des images pour une année entière. Et donc, on sent qu'il y a à la fois de la part des artistes qui, pendant de trop nombreux mois, n'ont pas pu s'exprimer, et des publics qui n'ont pas pu se retrouver,
bien
cette
sûr.
Envie de fêter ensemble la musique.
David Théodorides, donc pour votre festival Symphonia en Périgord qui commence demain, deux concerts par jour, hein, la plupart du temps, et puis de la pédagogie, des actions culturelles, des ateliers tout au long du festival. Quel genre ça va être, peut-être aussi pour tout public?
Oui, évidemment. Alors on a déjà fait un choix qui est de proposer un tiers de notre programmation avec les jeunes tous de la musique ancienne qui soit librement accessible au public, gratuit. C'est une façon finalement de tremper le doigt avant de plonger dans le grand bain de la musique pour ceux qui seraient un peu moins connaisseurs. Ouais. Et puis des rencontres avec les artistes. Alors compte tenu des conditions sanitaires et des allongements des files, et on a une programmation assez rapprochée, assez dense, on est malheureusement obligé cette année de les sacrifier au bénéfice des concerts, oui. Mais régulièrement, effectivement, on propose ces rencontres. Et puis, Symphonia, c'est aussi une action tout au long de l'année, et donc avec l'ensemble en résidence, les surprises...
De Louis-Noël, Bestion de Cambolas.
De Louis-Noël jusqu'en 2023. Mm-hmm. Ces actions vont se poursuivre tout au long de l'année à la rencontre des scolaires sur le territoire, des personnes âgées en milieu sanitaire, de façon justement à ce que ce festival ne soit pas une semaine et un moment dans l'année, mais bien un prolongement et un fil qui se déroule sur les 12 mois de l'année qui vient.
Les surprises en concert de clôture le 28, Rameau à Pompadour, à Périgueux. Et puis David Théodorides, on ne pouvait pas ne pas en parler, c'est votre dernière édition du festival que vous dirigez maintenant, puisque vous allez prendre vos fonctions de directeur du centre culturel de l'Abbaye aux Dames, la cité musicale de Saintes. Ça faisait quand même presque 20 ans, c'est ça pour vous, Symphonia en Périgord. Une émotion, j'imagine, particulièrement cette année. Vous en parlez très bien, on a tous envie de venir.
Oui, beaucoup d'émotions, je vous cache pas. Parce que c'est vrai que ce festival a vécu de nombreuses années en moi. Chaque année est un nouveau festival. Donc c'est 20 fois une année passée avec le public et avec les artistes. Donc vous imaginez bien qu'il y a beaucoup d'émotions pour en ce qui me concerne, et aussi beaucoup de joie de rejoindre l'Abbaye aux Dames, où il y a une équipe extraordinaire, projet mythique. Donc voilà, tout ça se mêle étrangement avec de la tristesse et de la joie en même temps. Mais c'est souvent comme ça, c'est comme un carnaval. On n'est jamais loin du rire aux larmes.
C'est la vie, quoi. Merci beaucoup.
Exactement. Et puis on n'est pas propriétaire des événements que l'on organise. Moi, je crois beaucoup à cette nécessité de transmettre. C'est ce que font les musiciens sur scène, c'est ce qu'ils font aussi dans la pédagogie quand ils enseignent. Et donc transmettre un événement à d'autres, à charge pour ceux qui suivront, de continuer à le porter avec la même passion et la même énergie. Et je trouve que finalement, c'est assez normal et assez sain.
Merci beaucoup David Théodorides d'avoir été avec nous. Festival Symphonia en Périgord du 21 au 28 août, et on écoute les Cris de Paris en concert mardi prochain au festival Musique Sacrée à Venise. Les voici. Très bonne journée, bon festival.
Merci, à très bientôt.
Crucifixus à 16 d'Antonio Caldara, interprété par les Cris de Paris, dirigé par Geoffroy Jourdain, des musiciens en concert au Festival Symphonia en Périgord, mardi prochain le 24 à Coulouniex. C'est à 21h et ce programme Passion, musique sacrée à Venise, de 1600 à 1750. 8h20, bienvenue sur France Musique si vous nous rejoignez. À nous maintenant de vous annoncer les concerts qui vous attendent au cours de la journée à l'affiche des concerts. Trois concerts inédits comme d'habitude à 16h, présentés par Laurent Lefrançois. Le concert des Vasailles Chics mezzo-soprano accompagné par l'ensemble Les Ombres qui a eu lieu l'an dernier en l'abbatiale d'Ambronay. Et puis à 20h, Festival de Salzbourg, chœur et orchestre philharmonique de Vienne. Une belle distribution de solistes dirigée par Riccardo Muti. C'était il y a quelques jours, dimanche 15, et ce concert a été enregistré et vous est présenté ce soir par Priscille Lafitte. À 21h15, toujours par Priscille Lafitte, la présentation du concert des 80 ans de l'Orchestre National de France, donné en 2014 en direct du Théâtre des Champs-Élysées. Et puis à 23h, un concert donné l'an dernier, concert jazz donné au Centre culturel Bjørnsonhuset de Molde, dans le cadre du festival Molde Jazz, présenté par Lionel Eskenazi. Et ce matin, nous avons choisi de savourer la voix unique des Vasailles Chics.
Thank you.
La mezzo-soprano Eva Zaïchik, révélation lyrique des victoires de la musique tout récemment, accompagnée à l'instant par Les Ombres, cet ensemble dirigé par Margot Blanchard et Sylvain Sartre, à l'instant dans l'air d'Hydrasp, extrait de l'acte 2 d'Eris Mena de Francesco Cavalli, un extrait du concert auquel vous aurez droit tout à l'heure à 16h, présenté par Laurent Lefrançois. Avant de recevoir Christina Pluart, tout de suite notre place à la création, on change d'ambiance, ben oui, et musique de notre temps.
Musique matin.
Et oui, il est 8h25, il est temps d'écouter ce qu'il se crée en ce moment. Et à l'honneur ce matin dans notre émission, la compositrice Lucie Prodhomme, née en 1964, compositrice aventurière de l'écoute. Et je vous propose ce matin sa pièce « Espèce de gros son ». Elle est une invitation à quitter la pulsation pour le rythme et à faire nôtre le texte d'Olivier Messiaen, je le cite. Le rythme est issu des mouvements, des flots, des ondulations, des vagues de la mer. Il se rattache donc primitivement au mouvement, mais au mouvement répété avec des variantes toujours nouvelles, c'est-à-dire à l'infini de la périodicité irrégulière. Non pas la répétition du même, non pas l'alternance du même et de l'autre, mais la succession de mêmes qui sont toujours autres et d'autres qui ont toujours quelque parenté avec le même. C'est la variation perpétuelle. L'étude du son de l'intérieur, voilà, avec ce son, espèce de gros son, la deuxième partie, que voici, je suis un gros son, mais suis-je vraiment drone, propose un moment stationnaire et mouvant à la fois, vous allez l'entendre, il faut tendre l'oreille, donnant à entendre une polyphonie entre un son très grave et des agitations fébriles, pour finir sur une pulsation lente et inégale. Espèce de gros son, la première pièce du cycle Le son du son de Lucie Prodhomme, l'écoute du son qui est un travail de recherche, une réflexion musicale sur comment composer l'énergie du son, la matière, le silence et les différentes façons de l'écouter. C'était à l'instant Olivier Lamarche sur Acousmonium Motus et c'était au festival Futura, créé, donné en 2017. 8h29 tout de suite sur France Musique, l'heure d'accueillir notre invité.
Musique Matin, le 7h30, 9h de Gabriel Olivier Aguillon.
Lutiste, harpiste, théorbiste, compositrice, fondatrice et directrice artistique de son ensemble L'Arpeggiata, inclassable et tant mieux, musicienne tout simplement, Christina Pluart avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes en concert très bientôt, le 25 août au Festival de Rocamadour, le 27 au Festival de Sablé-sur-Sarthe, avec votre ensemble L'Arpeggiata, que vous avez fondé en 2000 et accompagné là pour ses projets par deux grandes voix, Philippe Jarouski et Céline Chine. Un double programme, Caldara et Pergolèse, tous les deux morts d'ailleurs en 1736, mais l'un a vécu bien plus longtemps que l'autre, c'est Caldara. Alors, ces deux œuvres, le Stabat Mater de Pergolèse et puis des extraits de trois oratorios de Caldara, lesquels sont-ils, ces oratorios?
De Caldara, on a la morte d'Abel et puis la passion de Jésus et la Maddalena al piede di Cristo.
Marie-Madeleine voilà. Au pied du Christ. Alors pourquoi un tel programme sur ces textes liturgiques évidemment très puissants? La souffrance de la Vierge, la mort du Fils, la mort de Jésus-Christ et puis l'émouvant désarroi de Marie-Madeleine qui est tiraillé entre les séductions terrestres et célestes.
Oui, en effet, c'est la passion qui réunit en fait l'idée de ce programme, parce que bon, la pièce centrale du programme, c'est bien entendu le Stabat Mater de Pergolèse.
Vous l'aviez déjà donné en concert?
On a déjà donné en concert, mais on le reprend avec grand plaisir. On a déjà donné avec Philippe Jarouski il y a quelques années et Valère Sabatus, et là c'est Céline Chen et Philippe Jarouski.
Caldara, c'est donc, et Pergolèse, des airs italiens, mais quand même à l'influence germanique. On sait qu'au XVIIIe siècle, l'école italienne domine l'Europe, mais il y a toute cette influence aussi germanique qu'on sent dans ces partitions-là.
En fait, Caldara habitait à Vienne pendant très longtemps. Il travaillait pour la cour des Habsbourg. Et donc, en effet, c'est la musique italienne qui s'est répartie en toute Europe. Et lui, il était en Autriche.
Oui. Un programme que vous donnerez, Christina Pluart, également les 3 et 4 septembre, Salle Gaveau à Paris, dans le 8e. Alors, cet arpeggiata, cet ensemble de musique ancienne spécialisé sur la musique du XVIIe siècle, est-ce qu'il y a, justement, on parlait de ce Stabat Mater de Pergolèse que vous avez déjà joué, est-ce qu'il y a des modes d'interprétation de la musique ancienne, peut-être une façon d'interpréter ces œuvres comme vous ne l'auriez pas fait il y a 10 ou 20 ans, vous, Christina Pluart?
C'est sûr que on évolue et on mature aussi, je pense, j'espère. Mais en fait, il y a deux grands axes de travail avec arpeggiata. Soit on fait des programmes baroques purs et durs, comme celle qu'on va faire avec Caldara et Pergolèse. Soit il y a un autre axe qui est des projets qui sont un peu plus libres, où il y a des invités. D'autres styles musicaux aussi.
Ouais, vous parcourez le monde, il y a beaucoup d'influences.
Oui, c'est ça.
Et puis justement, votre nouveau disque qui sort le 29 octobre chez Warner Erato à la Napoletana. Il est déjà d'ailleurs en précommande sur le site de Warner. Tarantelle, folie, cantate, air et canzone napoletane. Donc effectivement, là, on sort vraiment du pur baroque et de ce grand répertoire. Parce que là, qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce disque? On va en écouter des extraits. Une sélection de compositeurs de Naples ou en lien avec cette ville?
Tout à fait, oui. Donc c'est un double disque, donc il y a beaucoup de choses là-dedans.
Ouais.
Mais en fait, c'est un peu la suite d'un travail qu'on a commencé il y a 20 ans sur la musique napolitaine. Pour le nouveau disque, on propose beaucoup de choses inédites, en fait. Il y a
sept enregistrements en première mondiale.
Oui, il y a par exemple une pièce que je trouve vraiment fantastique, et ça s'appelle Il Pazzo, le fou. Il y a deux cantates importantes dans la musique napolitaine, c'est la pazza, la folle, et le fou. Et donc, c'est en fait ces deux fous qui sont dans un hôpital pour les malades d'amour. Et donc, de là, ils chantent donc leur misère dans tous les sens. Et c'est vraiment une pièce extraordinaire, une pièce très importante, je trouve, pour comprendre aussi le lamento et la cantate italienne du Seicento, en fait.
Et donc, il y a des airs aussi religieux, profanes, populaires dans votre disque?
En fait, oui, profane, oui et non, on peut dire, parce que on a cherché donc des pièces profanes qui prend des thèmes traditionnels, en fait. Donc il y a des cantates pour Noël où les bergers chantent des tarentelles. vous voyez. Donc dans la musique napolitaine, c'est vraiment unique et extraordinaire qu'il y a une influence de la musique traditionnelle dans,
ouais,
dans la
mélange.
Musique, oui, dans la musique religieuse en fait, c'est incroyable.
Et puis il y a une cantate de 1674 de Cristoforo Caressana qui s'appelle La Veglia, c'est la veillée, c'est ça?
Voilà, c'est une de ces cantates pour Noël, et donc là, ça commence avec une tarentelle, et après il y a un des bergers qui chante une perceuse, une nanana en fait, c'est magique, c'est magnifique.
Et alors, una dama la più fortunata?
Oui, voilà, c'est donc une tarentelle.
Un extrait en avant-première et nous en sommes très heureux du nouveau disque de l'ensemble, l'Arpeggiata de Christina Pluart, notre invitée ce matin avec nous. Et donc ce disque à la Napoletana et cette cantate de Cristoforo Caressana, cantate de 1674. Christina Pluart, nous entendions donc votre ensemble, l'Arpeggiata, avec les voix de Vincenzo Capezzuto, que vous connaissez bien évidemment, Zachary Wilder, Alessandro Giangrande, Céline Chin et Luciana Mancini. Un enregistrement donc qui a été fait pendant le confinement. Christina Pluart.
Oui, en effet, on a enregistré pendant le confinement. Comme tout le monde, on a donc passé une année à travailler à la maison d'abord. Donc, ça m'a permis de faire des recherches, de découvrir d'autres répertoires et inclure ça dans le nouveau disque. Et puis, l'enregistrement a été fait en mars. Et on avait extrêmement peur que ça peut pas se faire à cause des problèmes de restrictions des voyages et le confinement. On était en période de confinement du nouveau à Paris en fait. Mais bon, tout s'est bien passé et puis c'était, on peut dire, c'était aussi une renaissance pour nous. C'était la première retrouvaille depuis des mois et des mois d'isolation. Et donc vraiment, je pense, on va écouter aussi un grand choix de se retrouver, de faire la musique ensemble dans ce disque. Le répertoire le permet de toute façon, mais aussi j'ai des souvenirs très 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 forts de cet enregistrement parce que c'était quasiment une renaissance. C'était presque comme enregistrer la première fois, vous voyez, c'était extraordinaire.
En fait. Une joie libératoire. Voilà, et puis ce disque donc qui sort, là on en a écouté vraiment très en avant-première puisque le disque sort fin octobre chez Warner. Erato, comment la crise sanitaire a fragilisé votre fonctionnement de l'arpeggiata? Vous avez pu quand même avoir des aides, des subventions?
Je dois dire que la France est quand même extraordinaire. On est en ensemble international et donc mes collègues qui habitent en Italie, qui habitent en Espagne, qui habitent en Belgique, qui habitent même en Autriche ou en Allemagne étaient dans des difficultés particulières qu'en France on n'a pas connu parce que l'État français a vraiment aidé. Donc c'est fantastique en fait. Mais je pense que la crise sanitaire a touché vraiment aux musiciens vraiment très profondément parce que c'était une mise en question de plein de choses. C'était aussi une peur que les choses ne reprennent pas après. Donc on était plus contents maintenant de pouvoir faire des concerts que les festivals.
Oui, cet été, vous avez beaucoup été sur scène.
On a beaucoup de concerts cet été. Heureusement, ça continue aussi en septembre. Il y a beaucoup de festivals qui sont des dates reportées en fait de 2020, qui ont pu quand même nous réinviter et reprogrammer. Donc c'est une grande gratitude de tous les musiciens qu'il y a une forte reprise actuelle. Et il faut dire aussi qu'il y a un intérêt incroyable aussi du public. Le public a une faim et une soif de musique comme nous, en fait. On sent ça très, très fort. On a fait des concerts vraiment quasi des délires parce que le public a...
Mais c'est ce qu'on aime aussi chez l'arpeggiata, c'est que c'est des spectacles qui font pleurer, rire, danser. C'est une explosion.
Ouais, déjà avant la crise, c'était un peu comme ça, mais on a fait des concerts où on a vraiment eu un très fort échange avec le public. C'est extraordinaire, on est très contents.
Christina Pluart, vous nous disiez à l'instant que pendant ces confinements, vous en avez profité pour faire des recherches. La recherche musicologique vous attire vraiment beaucoup. Et donc, on le voit aussi dans ce nouveau disque à la Napoletane, qu'il y a des arrangements en première mondiale. Et puis, des dessins de Vincent Flückinger qui attirent l'œil, parce que c'est vrai que c'est un très beau disque. Des poissons. Pourquoi des poissons? Je sais que c'est en lien avec des querelles.
Ah, ça, c'est une très, très belle histoire que je dois vous raconter. Donc, en fait, déjà dans les disques, il y a une pièce qui est très, très drôle qui s'appelle Lo Cuoracino. C'est une pièce traditionnelle. Et en fait, ça parle du cuoracino qui est un petit poisson qui habite dans les golfes de Naples. Et en fait, il est à la recherche d'une copine. Donc, il se fait tout beau. Et puis, il voit la sardelle qui joue le luth.
C'est la sardine.
C'est la sardine, voilà. Et puis, voilà, il tombe amoureuse. Mais en fait, elle est déjà fiancée au thon.
Aïe.
Et donc, le thon, évidemment, il n'est pas content. Et puis, il appelle ses amis et la famille. Et lui aussi, il appelle ses amis et sa famille et tout. Et il y a une grande guerre entre les poissons dans les golfes de Naples qui éclate à cause de cet thon jaloux et la sardine infidèle. Donc déjà ça, c'est fantastique, cette chanson traditionnelle du 18e siècle. C'est vraiment merveilleux. Et en fait, on a enregistré ça, chanté merveilleusement par
Alessandro. C'est une chanson qui date de quand?
Donc, en fait, c'est une chanson traditionnelle qui s'est datée du 18e parce que c'est une passe de la tarentelle et on dit que les origines sont dans le 18e siècle. Mais en fait, donc on a enregistré, on a fait un vidéo de ça. Et quand j'ai reçu donc les premiers montages du vidéo, j'ai voyé des images de ces poissons-là. Et donc j'ai appelé cet artiste incroyable qui s'appelle Vincent Flückinger, qui est à la fois luthiste et qui fait aussi des dessins vraiment fantastiques. Et on a commencé à parler de l'idée d'inclure donc des dessins dans les vidéos et dans les disques, parce qu'en fait en Italie il y a une tradition, ça s'appelle les cantestori, c'est des raconteurs, des chanteurs des rues en fait, qui racontent en chantant et parlant. Et il y avait une tradition que ils avaient des dessins et un bâton, et avec ces bâtons ils montraient donc des personnages de leur histoire, non? Et en fait, j'ai voulu recréer en fait cette idée ancienne, très archaïque en fait, de cantastori, dans une version moderne sur YouTube en fait.
Mmh. Et puis maintenant au disque vraiment.
Et au disque, voilà, la couverture du disque, c'est donc les Guaracino en dessin de Vincent Flückinger, qui est génial.
Vous parliez de ces chants. Je sais que vous êtes évidemment une grande passionnée des voix. Est-ce que quand vous trouvez un air, vous savez tout de suite par qui vous aimeriez l'entendre dans vos chanteurs fidèles et nouveaux? Vous les associez tout de suite ou?
Oui, oui. en fait, tout de suite, c'est c'est pas comme ça que ça va pas très vite, parce que ça prend beaucoup de temps en fait, parce que pour ces disques-là en particulier, j'ai vraiment fait appel à des chanteurs très 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 différents, à des voix très différentes, aussi des manières de chant, des techniques et des qualités très différentes, et j'ai cherché vraiment de leur attribuer de répertoires qui les font briller en fait.
Briller.
Et donc voilà, c'est donc des pièces très différentes dans ces disques aussi. Donc à la fois on a des pièces traditionnelles comme les Guaracino et autres pièces traditionnelles. D'autre part, on a les pazzo chantés par les merveilleux Paz Joao Fernandez, qui est un acteur incroyable, ou la pazza de Luciana Mancini, et d'autres pièces. Donc je peux dire chaque personnage, quasiment comme dans un film, c'est des acteurs, non, des personnages, des couleurs très très différentes, très très variées.
Vous parliez de Lucia Mancini, et puis on a entendu la voix de Vincenzo Capezzuto, qui a une voix fabuleuse, très, vraiment très unique. Et justement, ils sont dans cette chanson que j'aime beaucoup de vous, El Curucha, de Juan Bautista Plaza, arrangée par Quito Gatto, que l'on va écouter tout de suite, l'ensemble Arpeggiata, et vous, Christina Pluart, à la direction.
Cuando tengo sed, a mi negra la quiero y la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar, más que pego la saque en el fuego mi lazo colgando me ha hecho ganar. A mi negra la quiero más que a la cotiza que llevo del pie. A mi negra la quiero más que a la tinaja cuando tengo sed. A mi negra la quiero más que a mi chinchorro que me hace soñar, más que pego la saque en el fuego mi lazo colgando me ha hecho ganar. Cuando baila mi lega puro a mi mesa patea por dentro de mí, al compás de punterita loña, el compás de la que pasa en fin. La cadera, mi negra, que me hace perder la razón. Con un chaco que gasta, mira la cadera, mi negra, que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra, por ropa, mi mesa patea por dentro de mí. Al compás de punterita, doña, el compás de la que pasa aquí. Lo que gasta, mira la cadera, mi negra, que me hace perder la razón. Con un chaco que gasta, mira la cadera, mi negra, que me hace perder la razón. Cuando baila mi negro joropo, a mi zapatilla por dentro de mí.
al compás de porterita loña, al compás de la quejo sin fin. Porque iré se menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. Porque iré se menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. Cuando baila mi negra joroto, a mí zapatea por dentro de mí. Al compás de porterita loña, al compás de la quejo sin fin. Porque iré se menea la cadera mi negra que me hace perder la razón. Porque iré se menea la cadera mi negra que me hace perder la razón.
Et bien voilà, un beau réveil à 8h49 sur France Musique avec El Curucha de Juan Bautista Plaza, arrangé par Quito Gatto, l'ensemble L'Arpeggiata dirigé par Cristina Pluart, notre invitée ce matin, et puis les voix de Vincenzo Capezzuto et Luciana Mancini. Là, cette fois-ci, Cristina Pluart, on n'était pas dans un projet du grand répertoire baroque, mais El Curucha, cette chanson de ce disque d'un projet sud-américain.
Voilà, c'est un disque qu'on a fait il y a quelques années sur la musique sud-américaine. En fait, j'étais très fascinée du fait que il y a ce que j'appelle le baroque vivant encore dans certaines musiques là-bas. En fait, il y a des instruments qui ont immigré dans la Renaissance de l'Europe là-bas et qui ont la même forme, le même accord, mais qui ont une musique propre aujourd'hui. Mais c'est comme on trouve quasiment les traces du baroque encore là-bas dans cette musique-là.
Vos recherches musicologiques, comment vous travaillez ? Vous allez vraiment dans des bibliothèques pour trouver des recueils qui sont conservés ? Ou est-ce que là, par exemple, pour l'Amérique du Sud, vous avez voyagé là-bas ?
Alors ça dépend tout à fait du projet. Quand il s'agit d'un projet de musique baroque, on peut, où j'ai fait mes recherches dans les bibliothèques. À l'époque, quand j'ai commencé mon ensemble, on devrait vraiment aller physiquement dans les bibliothèques. Et c'était une manière assez complexe et assez longue de trouver les manuscrits, des partitions. Parce que il a fallu voyager à Rome, à Florence, à Venise, à Bologne, et demander permission d'aller faire les recherches dans les bibliothèques. Mmh. On avait le droit de regarder qu'un certain nombre de livres par jour, etc. Donc c'était fascinant parce que on était là dans la culture, on voyait des manuscrits devant les propres yeux, on pouvait les toucher, etc. Mmh. Mais aujourd'hui, la recherche est beaucoup plus simple parce que quasi toutes les bibliothèques ont un système en ligne aujourd'hui. Ouais. On peut regarder les manuscrits chez soi dans l'ordinateur. Ça va plus vite, c'est plus simple. Et ça m'a permis aussi pendant le confinement de faire beaucoup de recherches, ouais. Heureusement. Évidemment, c'est les deux manières ont leurs avantages et désavantages. Mais je dois dire que c'est formidable aujourd'hui qu'on puisse faire des recherches comme ça. Pour la musique traditionnelle, c'est toute une autre voie de rechercher, en fait. Donc là, vous ne trouvez pas des manuscrits. En fait, ouais. C'est une musique vivante. Donc, vous devrez chercher des chanteurs, des instrumentistes qui connaissent cette musique, qui chantent ça.
Et d'ailleurs, dans votre disque à la Napoletana, qui sort en octobre prochain, des tarentelles, des folies, des cantates des airs et des canzones de Naples, qui sort très bientôt. Enfin, très bientôt, il faut encore attendre le 29 octobre. Mais vous nous avez fait rêver avec cette histoire de querelle de poisson. Et puis avec cette cantate que nous avons écoutée tout à l'heure de Caressana. Faire un disque et être en concert, c'est très différent pour vous. On le disait tout à l'heure, vos spectacles, c'est tellement festif. Il y a quelque chose de très complet. Et puis le disque, quel est votre rapport avec ces deux moments très différents ?
Oui, alors c'est vraiment, c'est un art pour moi très différent, les deux choses. Et souvent, j'ai de la réflexion des gens qui connaissent nos disques, mais qui viennent au concert aux premières fois, qui me dit après le concert que il croyait pas que ça peut être si différent que les disques, hein, ça vit dans une manière propre sur scène. Et en fait, faire un disque pour moi c'est comme faire un film, en fait. J'ai fait un cast des chanteurs et des artistes, des musiciens autour de moi. Et c'est un travail dans la précision. Dans... Il y a beaucoup de travail de montage, de post-production aussi, et que je fais depuis des années, toujours avec la même personne, avec Mireille Faure, qui est une technicienne formidable avec laquelle je travaille depuis 15 ans, en fait, pour toutes les disques. Et en fait, on fait tout ça ensemble. Je lâche pas, on fait tout le montage ensemble. C'est beaucoup de travail. Donc, j'ai creuse vraiment en profondeur de faire tout de A à Z, des recherches, des arrangements, du son. Je travaille aussi avec les techniciens sur les sons. Après, les montages, la post-production, même jusqu'au livret, etc.
Et puis le concert, c'est un spectacle.
Et les concerts, c'est vraiment autre chose. Et puis, souvent, on commence par enregistrer. Et après, il y a notre vie propre des concerts qui font vivre les spectacles. En fait.
En concert, vous serez Christina Pluart avec votre ensemble L'Arpeggiata le 25 au Festival de Rocamadour, le 27 au Festival de Sablé-sur-Sarthe et puis les 3 et 4 septembre prochains à Paris-Salle Gaveau pour ce programme Endel et puis surtout Caldara et Pergolèse. Merci beaucoup Christina Pluart d'avoir été avec nous, de nous avoir fait part de votre prochain disque de chansons napolitaines. Et petite question pour se quitter, vous partiriez où Christina Pluart là maintenant, tout de suite avec qui et en écoutant quelle musique?
En fait, là tout de suite, si je pourrais partir comme ça avec qui je voulais et où je voudrais, à quel moment, quelle année je voudrais, j'aimerais bien partir à Venise et rencontrer Claudio Monteverdi lui-même et écouter la musique qu'il a fait et les chanteurs qui ont chanté sa musique. Ça me ferait très plaisir de pouvoir faire ça.
Merci beaucoup, ça nous a fait très plaisir de vous avoir, vous, en studio. Christina Pluart, très bonne journée, bon concert.
Merci à vous, merci.
La voix de Giuseppina Bridelli dans l'air de Bradamante, extrait de Il Palazzo Incantato de Luigi Rossi, mezzo-soprano accompagné par l'ensemble L'Arpeggiata, dirigé par Christina Pluart. Et c'est avec ces notes, ces belles notes que nous nous quittons. Et puis nous revenons évidemment lundi pour Musique Matin. Lundi, je recevrai la pianiste Shani Di Luca. Voici la réponse à notre question ce matin. Il fallait répondre 35 ans. Eh bien oui, l'Orchestre National de Jazz a été créé en 1980. Il a donc 35 ans. Bravo à vous, Étienne à Châtelet-en-Brie, Célima à Longwy ou encore Antoine à Strasbourg. Vous recevrez donc le disque rituel de cette ONG. Merci beaucoup à toute l'équipe de Musique Matin. Margot Muller, Valentin Carpentier qui m'aide à préparer cette émission, Taïsia Froidure qui m'aide aussi à préparer cette émission et qui est à la réalisation comme tous les jours depuis le début de l'été. À la technique avec nous ce matin, Maxime de Peretti et Titouan Labarre. Je vous retrouve donc lundi avec grand plaisir à 7h30. Et puis tout de suite, c'est Anne Montaron qui est là. Bonjour Anne.
Bonjour Gabrielle et merci pour ce moment de bonheur.
Ah oui, vous étiez contente vous aussi.
Ah oui, j'adore. Je suis une fan inconditionnelle de l'Arpeggiata et de Christina Pluart. D'ailleurs, elle va apparaître dans mon programme du jour. Reposez-vous bien, bon week-end et à lundi 7h30 sur France Musique.
Exactement. Merci Anne, très bonne émission.
Merci.
À réécouter sur francemusique.fr.